Bienvenue sur CFM Radio dans votre émission Afrique, mon Afrique avec Amadou Kansai. Aïwa, ko bamananko, ko niyi ipa makoro bokuna, obifamu, gani ipa kumakankuna, ebo yiga mayala de. En substance, les Bambara au Mali disent on peut sauter par-dessus, je le dirais comme ça en termes, le caca de, ou la merde d'un vieux, tu peux sauter par-dessus hein, quand il le dépose. Mais quand tu sautes par-dessus la parole d'un sage, ah, ta vie va être très 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 difficile. Eh bien, aujourd'hui, chers auditeurs, je suis dans le studio de CFM Radio, dans l'émission Afrique Mon Afrique avec Monsieur Nganda Charles. Bonjour Charles.
Bonjour mon cher Amadou.
Eh bien, bienvenue sur CFM Radio. Ça fait 3 ans que je voulais t'avoir sur ce plateau, dans ce studio-là. Hein? Tu es là aujourd'hui, je te remercie d'être venu. Hein? Et puis on va discuter, parler un peu aujourd'hui et je dirais s'amuser ensemble. Parce que quand on n'est pas sérieux, on ne peut pas s'amuser.
Merci de cet accueil. Bien sûr, ça fait 3 ans qu'on s'est fixé rendez-vous. Bon, le temps pas sur le diapason des choses. Et il s'est avéré que c'est cette fois-ci que la réalité des faits doit s'accomplir. Bon, je suis Nganda Charles, comme vous l'avez dit, je suis franco-camerounais et je suis très heureux de faire cet entretien avec vous.
D'accord, très bien. Ben, de toute façon, nous allons découvrir qui est Charles hein, sur cette antenne-là. Mais pour l'instant, on va écouter de la musique, juste un peu de souvenirs. Et c'est parti avec Pepe Kale et Empire Bakuba.
Let's
bien, Pepe Kale et Empire Bakuba, c'était l'un des ténors de la musique africaine. Bah, il n'est plus, mais quand même, il a fait danser toute l'Afrique et même le monde entier, je dirais.
Ouais, il a fait danser tout le monde, hein, particulièrement l'Afrique.
Hein. Ouais, ah ouais, Pepe Kale, avec sa masse, mais c'était quand même une voix, une vraie voix de l'Afrique.
Et un bon danseur.
Et un très,
bon
très bon
musicien.
Danseur. Et je me souviens, son danseur là, celui qui était avec lui.
Emoro.
Emoro, ouais.
Oui.
Et des fois, tu te trompes, tu m'appelles même Emoro,
toi. Non. Emoro. Ah. Ouais, c'était le prototype africain bantou, ou de petite taille.
Ouais, c'est ça.
C'est ce qui a fait la beauté de cet orchestre.
Ah, mais donc c'était pas un handicap, sa taille, c'est vraiment
non,
ça?
Non, ce n'est pas un handicap. Physiologique, ah. Non, il est de la descendance peu des pygmées, quoi.
D'accord. Parce qu'il y avait une femme aussi qui dansait et qui était comme Emoro, la petite, j'ai oublié son nom.
Non, celle-là devait être aussi comme de la région des pygmées. Il y a des pygmées dans la forêt équatoriale.
Ah, absolument, ouais, au Cameroun,
donc,
au Congo.
Des gens de petite taille, pas seulement au Cameroun, au Congo, au Gabon.
C'est ça.
Au Congo particulièrement aussi. Tous ceux qui sont dans la région forestière, là. Les gens qui ne vivent que... dont les parents et les grands-parents ne vivaient que de cueillettes, par exemple, et de la viande sauvage.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ben, écoute, merci Charles. Je pense que je ne vais plus me séparer de toi pour faire mes émissions parce que tu donnes beaucoup d'informations. Hein, ça, c'est...
Ça, c'est... Cas, hein? Ma collaboration est certaine. Hein, pour oh, ça, je oh, suis retraité, oh. Donc franchement, je pourrais toujours vous aider dans la mesure des possibilités.
D'accord, très bien, je te remercie. Alors, ben, on va continuer sur ta présentation, mais en tout cas, on va parler un peu de ton parcours. Mais ce qui m'intéresse là pour l'instant, c'est ce que tu as fait, toi, en Afrique, parce que tu avais quand même une position...
Ouais.
National et international,
oui.
Surtout dans le domaine du sport. Donc, Charles, parle-nous un peu de toi et parle-nous un peu de ton parcours en Afrique.
Bon,
parce que je sais que c'est intéressant.
Mon tissu africain est un peu large, et très large et bien coloré. Je suis professeur d'éducation physique ayant fait mes études à l'Institut national de sport du Cameroun, ensuite à l'École supérieure de culture physique de Leipzig, et j'ai terminé par l'École centrale d'éducation physique de Moscou. Donc, je pense que pour le troisième cycle, j'ai pu avoir un condensé de connaissances du côté de la RDA et du côté de l'URSS. J'ajouterai un tout petit peu dans le cadre francophonie, la France, à l'INSEP de Paris, mais bon, pas pour longtemps.
Mais quand vous, excuse-moi de te couper, mais quand tu parles de RDA et de l'URSS, par exemple, ce jeune technicien qui est là, Témis, là,
oui.
Est-ce que tu connais le RDA?
Le RDA, non.
Ouais, la RDA.
Oui.
Non, la RDA.
La RDA, tu connais?
C'est la République Dominicaine.
Laisse-le aller. La jeunesse doit être formée. Hein? La RDA, c'est.
J'en ai entendu parler à l'école. Bon, j'y suis pas resté longtemps non plus.
et l'URSS.
L'URSS, oui, ben oui, bien sûr.
Bon, je peux.
Bon, voilà, il va expliquer.
Ça, c'est bon, je peux vous expliquer. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne étant vaincue, on l'a divisé en deux parties. Les deux grands pôles politico-économique du monde, c'est-à-dire le bloc occidental et le bloc de l'Est, ont réparti l'Allemagne en deux parties. L'Est, c'était la RDA qui partait de Stralsund, juste au nord, juste en dessous de Dresden, au sud. Donc, l'Allemagne de l'Est a pris le nom de RDA et le Cameroun a reconnu l'Allemagne en 1970. C'est suite à la reconnaissance de cet état de RDA que des boursiers camerounais, pour la première fois, sont allés suivre les études à l'École supérieure de culture physique de Leipzig.
Voilà, c'est là où c'est intéressant, c'est que la RDA, donc c'est la République démocratique
allemande
oui. Qui donnait des bourses aux étudiants africains, parce que, voilà.
Tous les états africains qui ont reconnu la RDA à cette époque-là ont reçu des bourses pour la formation de leurs étudiants. C'est ainsi que le Congo, Brazzaville, la Guinée, Sékou Touré, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et quelques le Tchad, et l'Angola, quelques pays, l'Algérie aussi particulièrement.
Bien sûr, bien sûr.
Ils ont, nous avons reçu des bourses de la RDA pour continuer nos études en sport.
Ouais, c'est ce qu'il faut ajouter à cela aussi, je pense, en tout cas pour la nouvelle génération, c'est que l'Afrique des années 1960, c'était les indépendances. Je pense qu'ils étaient plus vers le bloc soviétique, c'est-à-dire le bloc socialiste.
Oui. C'est effectivement, pour ça que, évidemment,
voilà.
Évidemment, l'Afrique à cette époque-là, certains pays, surtout d'Afrique, en dehors de l'Algérie, qui était déjà presque dans le camp socialiste, et à certains pays d'Afrique dont les leaders pensaient beaucoup plus à aller dans le bloc communiste, c'est-à-dire aller faire des études en URSS, en Chine, à
c'est
Cuba,
ça.
En Allemagne de l'Est, et dans les pays de l'Est en général, que ce soit la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, à cette époque-là.
Bon, voilà, et donc on va, ça c'était juste pour...
Le petit point d'histoire.
Voilà, le petit point d'histoire pour la jeunesse, parce que M. Nganda, si on l'arrête pas, il a tellement de...
De choses à dire.
Bon, et ben voilà, on continue sur...
J'ai effectué une formation en Allemagne démocratique, et dès mon retour au Cameroun, où je suis originaire, j'ai eu la possibilité d'enseigner à l'Institut National de Sport du Cameroun de 1977 jusqu'en 1995. Bon, voilà, j'enseignais au département du sport de l'université et particulièrement à l'Institut National de Sport. J'ai formé beaucoup de cadres parce que je cumulais un peu. J'étais en même temps entraîneur national de volleyball et je faisais également partie de la première promotion des instructeurs de la Fédération internationale de volleyball formés en Allemagne. À Bad Blankenburg, c'était en 1984-85, comme ça, voilà.
Je pense que ça n'a pas été facile peut-être pour toi à cette époque-là, parce que le volleyball, moi je me souviens quand j'étais au lycée, nous, à l'éducation physique et sportive, on refusait d'aller faire le volleyball parce que c'était réservé aux filles. Nous, on disait, un garçon qui faisait le volleyball, nous on disait que c'était une fille.
Ça, vous avez raison. À cette époque-là, on plaçait le volleyball dans sa globalité comme sport féminin. Mais moi, en tant qu'encadreur de volleyball, on me traitait pas comme un monsieur ayant une connaissance, on dit à monsieur, il ne s'occupe que des filles, donc il fait le sport des filles. Pourtant, en fait, toute analyse faite, le volleyball est l'un des meilleurs sports du monde.
Ça, c'est absolument, c'est très, très athlétique.
Que ce soit dans ses caractéristiques, que ce soit dans ses dans la formation du volleyeur en général, on trouve tout ce qu'il faut pour un sportif. Depuis le jeune âge jusqu'à l'âge adulte.
Bon, très bien. Tout à l'heure, on va, Thémis, si tu veux bien, on va écouter le deuxième morceau. Hein, tout à l'heure, je pense que c'est Tichéri Tam Tam pour l'Éthiopie. On va écouter ça. Et puis, Charles, on revient vers toi pour, parler un peu de volleyball. En Afrique, quoi. Et puis, surtout, les villes africaines, les pays que tu as fait, les rencontres que tu as fait, nous donner un peu de tout cela. Donc, c'est parti avec Tichéri. Écoute ça, Monsieur Nganda. Mon chant d'amour, c'est quand six oiseaux, vous qu'attendez tous les bons matins,
La chanter jour soleil levé, c'est ça, il fait jour ouvert. Mais je dis là, c'est pour nous doudou, considérons-nous comme des oiseaux. Qu'à chanter, chanter pour l'amour.
Chérie,
peut-être qu'on prend nous
pour tomber d'amour.
T'as moins plaisir, moins consent. Je dis à c'est ça.
Amour pour Siwo.
Aïe, Siwo. Ça y femme dit ça. C'est parce qu'elle est moins contente. Depuis, me connaît tout. Moins qu'à vivre si des nuages. Pour femme, vrai, six étoiles. Pour femme, vrai, tout l'amour, moi. Je dis, c'est pour doudou, moi, qu'à chanter, aidez-moi.
Dis, chérie.
Peut-être qu'on prend nous.
Pour tomber d'amour.
Femme, un plaisir, moi, consent.
Dis, doudou.
Je dis, c'est ça.
Amour pour Siwo.
Ça, c'est du Zouk Love. Et mes pensées vont très, très rapidement à un de nos mélomanes de Montauban. Il s'agit de Monsieur Naounou Tchétché. Donc, ce morceau lui est dédié exceptionnellement. Et puis, à un de nos petits frères aussi, Moutawakilou, dit Alex, qui aime bien le Zouk Love. Charles, après oui. Tam Tam 2000, hein, qui nous a fait vibrer en ces temps, hein. Je oui. sais que tu aimes bien le Zouk Love.
Ouais, c'est de la bonne musique.
C'est de la bonne musique, hein. Bon, Charles, on continue avec toi parce que de toute façon, les questions sont nombreuses et on pourra même pas les épuiser tout ouais. aujourd'hui. Il y aura d'autres temps. Alors, moi, je te dirais, est-ce que tu peux nous parler un peu du volleyball à l'époque, hein, à l'époque en Afrique, au Cameroun? Et surtout, nous parler aussi des villes, des pays où tu as pu aller comme entraîneur national, oui, comme encadreur, comme formateur. Les rencontres les plus intéressantes aussi, quelquefois, ou même si c'est des anecdotes que t'as pu faire. Et surtout à la fin, dis-moi pourquoi aujourd'hui finalement il n'y a pas une équipe championne de volleyball africaine dans le monde. Pourquoi cela alors qu'il y a l'engouement, il y a la force, il y a tout ça?
Merci beaucoup, mon cher Amadou.
Oui.
Mais je voudrais non seulement vous parler un peu de mes activités en tant qu'entraîneur de volleyball, mm-hmm, ou instructeur au niveau de la Fédération internationale. Ça va de pair. J'étais également vice-président de la Commission africaine des entraîneurs de volleyball. Vous nous demandez un peu de parler du palmarès du volleyball africain par rapport au volleyball mondial. Je vous dirais d'abord, dans le cadre du continent africain, le premier championnat d'Afrique des nations de volleyball a été organisé au Caire en 1971.
D'accord.
C'était la première fois qu'on organisait un championnat continental de volleyball. Mmh. Et je vous dirais également, dans la même lignée, le premier championnat d'Afrique des clubs champions a été organisé toujours au Caire en 1981. Et à cette époque-là, il n'y avait que trois équipes. Il y avait Sonel du Cameroun, Al Ahly de l'Égypte et Zamalek, suivi de l'équipe de volleyball de Cannes qui est venue grossir un peu le nombre.
Zamalek, c'est quel pays?
C'est l'Égypte.
Oui, d'accord, ok.
Et
donc
il y avait Al Ahly du Caire et Zamalek du Caire, plus le Sonel du Cameroun. Là, c'est le tout premier championnat d'Afrique des clubs champions. Donc, je vous dirais tout simplement que le volleyball au niveau africain, n'a pas beaucoup évolué. Un, le problème infrastructures.
Oui.
Parce que jusqu'à nos jours, je vous dirais, le Cameroun que j'ai encadré pendant des années, à peu près 25 ans, que j'ai encadré en tant qu'entraîneur, n'a eu son premier gymnase ou son premier palais de sport qu'il y a quelques années.
Aïe.
Donc, malgré ça, le Cameroun a pu participer au tournoi pré-olympique à Amsterdam, à Montpellier en France, au championnat du monde au Brésil, à la Coupe du monde au Japon, malgré le manque des infrastructures. Donc, nous avions eu une chance parce que la formation, les formations camerounaises de volleyball avaient beaucoup de contacts à l'extérieur. C'est ainsi que on allait ou on venait en France. Mon premier stage avec les équipes nationales du Cameroun datait de 1978. Là, j'étais à Montpellier, où j'ai fait passer un mois et demi. On préparait les Jeux africains d'Alger avec l'équipe nationale fille, tandis que l'équipe nationale garçon du Cameroun était à Paris, aux 7 rue Eblé, avec le Racing Club de France qui, à cette époque-là, avait...
Tu te souviens même du nom de la rue?
Oui, on a logé là-bas, donc je me souviens. Donc, ça a été un apport parce qu'il n'y avait pas de palais, de parquet au Cameroun, donc on venait s'entraîner ou en Europe ou dans les pays comme l'URSS, on avait des contacts.
Mais Charles, ce que je comprends pas sur ça, c'est que le Cameroun, prenons le Cameroun par exemple, le Cameroun c'est pas un pays pauvre, c'est un pays qui pouvait quand même investir, sachant que les sportifs sont engagés, les encadreurs sont engagés et il y a de la ressource. Mais pourquoi l'argent ne suit pas? Parce que finalement, la politique ne suit pas.
Ça n'est pas facile.
Cette période.
Pour moi, ce n'est pas à cette période-là, ce n'est pas facile d'expliquer. Il n'y avait que des gymnases, par exemple, dans le cadre de gymnases. Il y avait à Douala un gymnase au collège Liberman. À Yaoundé, il n'y avait pas des gymnases. Il y avait les gymnases à l'Institut National de Sport qui appartenait à l'Institut National de Sport en ce temps-là. Et à Tchang, il y avait un gymnase. À l'Ouest, il y avait un petit gymnase. Bon, mais les salles, c'était le ciment, ce n'était pas du parquet. Donc, l'évolution du volleyball à cette époque-là ne permet peut-être pas d'être à un haut niveau, d'autant plus jouer sur du ciment, jouer sur du goudron, ce n'était pas facile. Bon, mais le Cameroun n'avait pas encore mis sur pied une politique de structuration. Il y avait, par exemple, au football, un seul grand stade à Douala, un grand stade à Yaoundé, pour la première Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en 72. Donc, c'est autant
le,
de...
Le Mali a été finaliste, d'ailleurs,
voilà,
contre le
Mali
Congo.
Voilà, le Mali a joué le match de classement contre le classement, le Cameroun, qui vous a battu, excuse-moi si je dis, qui vous a battu cette époque-là, c'était, je crois, 3 buts ou 4 buts à 1, mais le match de classement. Qu'en dehors de cela, bon...
Non, mais nous, on a été deuxième quand même. On a joué
vous
la finale.
Vous avez joué contre le Congo?
Le Congo, Yaoundé 72 avec Salif Keita.
Vous avez joué.
Donc, c'est pas un match de classement.
Non, c'était pas. Vous avez
nous,
joué.
On
la finale.
A été deuxième.
Oui, vous avez joué contre le Congo, je m'excuse.
Voilà, on était plus fort que le Cameroun à l'époque.
à l'époque. C'est le Congo qui nous avait éliminés. Voilà. Ça, c'est vrai.
Ben, donc, bon. Charles, oui, ce que tu développes là, ok.
Mais ce n'est qu'une parenthèse, oui. Tout ce qu'on dit
oui.
Là. Passé.
Mais moi, j'aimerais que tu me. Même si. Il y avait pas d'infrastructure à l'époque, il y avait quand même l'engouement pour le sport et tout, les gens étaient motivés. Moi, la question maintenant, vous avez beaucoup voyagé, tu as voyagé avec ton équipe.
Oui.
Vous êtes allé partout en Afrique, dans le monde entier.
Effectivement, j'ai beaucoup voyagé.
Ça, c'était pas inintéressant, ça. Il y a des rencontres.
Non, j'ai beaucoup voyagé. En tant qu'entraîneur national, j'ai eu à faire presque tous les pays d'Afrique, et particulièrement du Maghreb, parce que à cette époque-là, toutes les compétitions africaines n'étaient organisées qu'au Maghreb, que ce soit en Égypte, que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie ou au Maroc. Parce qu'il y avait beaucoup plus d'infrastructures appropriées. Il y avait des gymnases avec plancher, donc ça nécessitait que le règlement soit mieux appliqué, mieux apprécié là-bas. Donc, dans les autres pays au sud du Sahara, c'était difficile de trouver un palais de sport. Donc, en tant qu'entraîneur, on allait beaucoup plus vers le nord de l'Afrique. Et après, on allait dans les pays européens pour la formation et le perfectionnement technique. Mais si je prends le cas carrément du Cameroun, avant que nous ne participions à la Coupe du Monde en 1988 au Japon, la Commission internationale des entraîneurs de la Fédération internationale a fait venir au Cameroun des chaînes audiovisuelles pour filmer les salles ou les lieux d'entraînement de l'équipe camerounaise. Mmh. À cette époque-là, on s'entraînait au terrain de l'Université du Cameroun. C'était du goudron. À la Gendarmerie nationale, c'était du goudron. À l'INGS, c'était le goudron également. À Messa, notre centre de formation nationale de volleyball du Cameroun, c'est Messa. Et c'était le goudron également. Donc, quand on a passé à la télé les lieux où l'équipe nationale du Cameroun se préparait pour aller à la Coupe du Monde au Japon, tout le monde s'est étonné. Même le président de la Fédération internationale qui avait fait le déplacement au Cameroun à cette époque-là, le Mexicain Ruben Acosta, a dit qu'on faisait du miracle. Parce que compte tenu de ce qu'il a vu, et compte tenu aussi du résultat qu'il a vu au Japon lors de la Coupe du Monde, il nous a dit chapeau.
D'accord. Très bien, Charles. Est-ce que ça serait une dernière question avant d'écouter le troisième morceau. Est-ce que tu as des contacts aujourd'hui avec tes joueuses, par exemple, qui doivent être des grand-mères même pas une seule
Non, j'ai des contacts. Il y a beaucoup de Camerounais que j'ai formés.
Par exemple, qui sont cadres aujourd'hui,
même ici en France, il y a beaucoup qui sont en France, qui sont même mariés, qui sont même déjà grands-pères. Il y a d'autres qui sont en Afrique. Je garde particulièrement en France où je vis depuis presque 20 ou 22 ans. Mmh. Je garde j'ai quelques-uns qui de temps en temps m'appellent pour me saluer, pour me demander comment je vais, ainsi que la famille, en dehors de cela. Mais je te dirais que, excusez-moi le terme, il y a un peu d'ingratitude dans l'action de ces jeunes-là. Donc, on se croise, on se dit bonjour, c'est tout. Donc, si on se croise.
Mais en tout cas, les bons souvenirs de l'époque restent, quoi, parce qu'il y avait l'engouement. Voilà.
Non, les bons souvenirs, ça reste. Oh là là, les bons souvenirs restent. Surtout lorsque une formation, tu préparais bien tes équipes, tu avais des résultats. Si on a gagné aux Jeux africains, avec l'équipe du Cameroun, nous avons gagné aux Jeux africains en 87 au Kenya. Nous avons gagné en 89 le championnat des nations à Abidjan. On a gagné encore, bien sûr que les équipes ont gagné après mon départ, je crois deux fois le championnat des nations. Les filles ont gagné et tout dernièrement encore. Le chemin que j'avais tracé et j'ai laissé, les filles camerounaises sont qualifiées aux Jeux olympiques.
Ah ben très bien, donc voilà. Il y a de l'espoir. Alors Charles, après on va revenir après, si tu vois, tous ces souvenirs en Afrique, oui. Tout ce qu'on vient de dire en Afrique, oui, voilà, oui. Par rapport à toi, les rencontres, les belles rencontres que tu as faites. On va revenir ici en France.
Oui.
Tu es là depuis 1995.
Oui.
Et on revient sur ça et puis un peu ton parcours professionnel, tes expériences surtout qui nous intéressent.
D'accord.
Et pour l'instant, nous allons écouter Maroc 88 parce que je sais que tu aimes aussi le football.
Ah oui.
Maroc,
Gadi Selly, il a été le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en cette période, hein, même avant 88. Et là, il chante, c'est un grand mélomane de la vie ivoirienne. Bon, Charles, je sais que tu aimes bien le foot. Tu as supporté quelle équipe là, le Canon de Yaoundé ou l'Union de Douala?
Ouais, j'ai supporté, malgré les vicissitudes ethniques, moi j'ai supporté le Canon de Yaoundé depuis mon jeune âge. C'était mon équipe. Hein.
Moi j'ai supporté, je suis malien, mais j'ai supporté l'Union de Douala.
Moi j'ai supporté le Canon de Yaoundé. Ça, c'était pour moi l'équipe qui me faisait vibrer tout le temps. Hein. Et j'ai même gagné des paris avec cette équipe là. Donc.
Bon, très bien.
Pour moi, c'était la meilleure équipe à cette époque-là.
Bon, alors, Charles, on va parler de ton arrivée en France.
Oui.
Tu es arrivé en France en 1995.
Je suis arrivé effectivement en France en 1995 en provenance de Durban, en Afrique du Sud, parce que j'avais postulé être entraîneur national en Afrique du Sud à cette période-là. Malheureusement, l'apartheid a fait à ce que je ne sois pas recruté, que je ne sois pas retenu là-bas. Donc, j'ai viré, je suis arrivé en France. Étant instructeur à la Fédération internationale, j'avais un sauf-conduit qui me permettait dans tous les pays du monde. Donc, pour m'installer en France, je n'ai pas eu de problème. Mmh. Je n'ai eu aucune difficulté avec la coopération française et la Fédération française de volleyball. J'ai eu le chemin presque tracé. Il n'y a pas eu d'embûche. Donc, de ce côté-là, je ne me dérange pas. Bon, pour le problème pratique, professionnel.
Mais quand tu es arrivé en France, tu as atterri où? Dans quelle ville?
J'ai atterri à Paris.
À Paris, voilà.
Et j'ai fait deux ans à Paris. Je m'occupais de l'équipe de volleyball d'Hermont. J'entraînais également les filles de Taverny, qui étaient à cette période-là en troisième division. Je les ai fait monter en deuxième division. Et après, avec les jeunes minimes d'Hermont, j'ai gagné le championnat de France cette époque-là. Ça s'est passé au Mont-de-Marsan. On avait joué la finale au Mont-de-Marsan pour le championnat de France avec les minimes. Mmh. Bon, c'est le seul résultat que j'ai pu faire à Paris. Et de là, je suis descendu au sud. Je suis allé au Centre national de volleyball à Montpellier. Mmh. Et du Centre national de volleyball de Montpellier, je suis arrivé à Castres. On est venu me chercher au Centre national de volleyball pour que j'entraîne l'équipe de volleyball de Castres qui était en Pro B. Cette époque-là, cette année-là, le volleyball de Castres a vécu sa plénitude. Nous sommes arrivés jusqu'en demi-finale du championnat de France et on a été éliminé par l'équipe de Rennes. Un an après, je suis allé à Toulon et particulièrement à la Seyne-sur-Mer. J'ai entraîné l'équipe de volleyball de la Seyne-sur-Mer. Ils étaient en national 2. En un an, je les ai fait monter en National 1 et je suis parti après de là pour des complications un peu personnelles entre les dirigeants de l'équipe de la Seyne-sur-Mer à cette époque-là qui n'étaient pas très chauds parce que on leur avait enlevé une partie de leurs responsabilités, surtout la partie financière. Bon, c'est ce qui m'a fait partir de la Seyne-sur-Mer. Je suis parti de la Seyne-sur-Mer pour Toulouse. À Toulouse, j'ai voulu encadrer l'équipe de volleyball de Toulouse. Bon, ça n'a pas été très, très net. En attendant, qu'est-ce que je devais faire? Il fallait que je trouve un autre boulot. Je suis allé dans la sécurité.
Ah, ben là, on va. Cette partie m'intéresse parce que là, on va laisser le côté professionnel, le sport, tant en Afrique qu'en France ici, parce que là, ça a été jalonné de succès, moi je dirais, parce qu'il est rare quand même de voir un entraîneur fût-il national en Afrique. Oui. Qui puisse entraîner des gens ici. Non. Bon, ça a été ton cas et on a vu que le parcours de Paris jusqu'à Toulouse, ça va, cette expérience, je trouve qu'elle est étoffée. Bon, maintenant tu es sur Montauban.
Oui.
Et tu parles de sécurité. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que Charles, quand je t'ai connu ici à Montauban il y a une quinzaine d'années, et je t'ai vu je pense qu'il y a 15, 10 ans, oui. Je t'ai vu à Leader Price.
Oui, j'étais. Hein,
vers les chaumes.
Oui.
Et agent de sécurité. Oui. Pourtant, je savais, on me disait qu'il y avait un grand homme camerounais ici qui a fait ça, ça, mais qui était agent de sécurité.
Oui.
Je dis, qu'est-ce qui se passe?
Je veux vous dire quelque
chose. Est-ce que c'est la France?
La France ou pas même la France, je dis tout simplement, oui. J'ai voulu servir d'exemple, non pas seulement à toute la communauté africaine, mais particulièrement à ma famille.
D'accord, très bien.
Je suis chef d'une grande famille. Mmh. Je voulais que mes enfants sachent que ici, la culture est différente du Cameroun. Donc, il faut absolument qu'ils se mettent à leur étude.
Très bien.
Car c'est le seul tremplin pour eux d'atteindre non seulement la haute performance dans le travail, même dans la vie. Donc, j'ai choisi d'être agent de sécurité parce que je voulais un CDI à cette époque-là. Mmh. Ce CDI-là me permettait de faire mon regroupement familial. C'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai fait mon regroupement familial. Ma famille était arrivée. Bon, je peux vous dire, je préfère ne même pas vous dire le nombre d'enfants que j'ai, car...
Non, mais t'es un bon Camerounais, tu peux le dire, ça, y a pas de problème.
Non, bon, j'ai...
15?
J'ai 8 enfants. Je suis père de 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Et je suis très fier et très content, car mon retour dans une fonction en dehors de celle que j'avais au Cameroun, parce que au Cameroun, j'étais dans la hiérarchie, j'étais au cadre dans la fonction publique catégorie A2, hein, donc j'étais au sommet de la fonction publique camerounaise. Donc ici, me voilà agent de sécurité.
Ouais, très bien. Mais là, quand tu parles de tes enfants, je vois que c'est un message que tu adresses vers toute la jeunesse, en disant, ben voilà, il y a pas de sous-métier,
il y a
pas de sous-métier, et surtout l'école, c'est une voie aussi.
Il y a pas de sous-métier, c'est voilà. Ce que j'ai dit à mes enfants. Je leur ai dit, au Cameroun, vous alliez à l'école en voiture, mais ici, parce que j'en avais les moyens, ici, je suis obligé de vous mettre à l'école et vous devriez étudier. Ne vous arrêtez pas au baccalauréat. Parce que si vous vous arrêtez au baccalauréat, vous serez obligé d'être éboueur demain. Donc, il faut aller plus loin. Et je dis Dieu merci, parce que les trois quarts de mes enfants ont fait des études de troisième cycle. Donc, je ne peux pas me plaindre.
Ben, très bien. Ce message à l'endroit de la jeunesse, je dirais, avec Thémis même qui est là, qui est jeune contrat civique, qui prépare son entrée dans une école pour se former dans les métiers du son. C'est ça?
C'est ça, exactement.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien d'être avec les anciens. Et moi, tout à l'heure, quand je dis que, parce qu'il faut dire les mots tels qu'ils se présentent, on dit chez nous, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Ouais.
Donc, quand un vieux dépose une merde, tu peux sauter par-dessus, mais tu peux pas sauter par-dessus sa parole.
Ah oui?
Donc, la parole de l'ancien, c'est la meilleure des paroles.
Alors, c'est l'expérience qui parle.
Ah ouais, c'est l'expérience qui parle. Qui passe, hein.
Alors, on va finir l'émission sur ce thème-là, mais tu mets, le morceau Fodé Baro,
c'est Rikiki.
Rikiki, voilà, qui est une douceur. Et on va finir en beauté notre émission avec cela. Et donc, Monsieur Nganda,
oui.
Lorsque je dis niyi pa makoro bokuna bashite, ga niyi pa makoro makan kuna ibayika mayala, c'est ce que je disais en français tout à l'heure. Quand on saute par-dessus la merde d'un vieux, c'est pas un problème. Mais quand tu sautes par-dessus sa parole, là, c'est un danger qui va être devant toi. Tout cela, c'est pour dire à la jeunesse que la parole de l'expérience. La parole des anciens, ce n'est pas du tout péjoratif.
Non.
Quand on dit vieux chez nous.
Non, ce n'est pas péjoratif. C'est l'esprit.
Voilà.
Ce n'est pas péjoratif.
C'est ça.
C'est dire que quand on t'appelle vieux, c'est que tu as amassé tout un lot de connaissances qui te permettent de résoudre n'importe quel problème dans n'importe quelle position sociale que tu te trouves.
Très bien. Ben voilà, donc nous sommes à la fin de l'émission, là. Thémis, c'est ça, c'est fini, on n'a plus le temps, là.
Eh oui.
Toi qui as la technique, il commande tout. Bon, c'est agréable avec toi, Charles Nganda.
Merci beaucoup.
Je te remercie. Et c'est une première expérience. Je te cherchais depuis 3 ans.
Ouais.
Là, je t'ai eu aujourd'hui.
Je suis disposé, je suis libre, je suis retraité. Je suis retraité et je pense que je passe un peu plus de temps à vadouiller de temps en temps dans cette belle ville qu'est Montauban.
Merci de parler de cette retraite-là, Charles. Ouais. Donc, tu as travaillé durement. Aujourd'hui, tu es en retraite. Ouais. Mais moi, la prochaine émission, j'aimerais de parler de ça. Après ta retraite, qu'est-ce que tu aimerais faire encore, soit en direction de la jeunesse d'ici ou d'Afrique? Hein, quels sont tes projets futurs? On va en parler de cela la prochaine fois, si tu veux bien.
Hein? Effectivement, je suis un peu féru du volleyball.
Oui.
J'aurais bien souhaité continuer à former des cadres ou des jeunes africains.
Écoute, on est à CFM Radio, on nous entend en Afrique via Internet de toute façon. Nous allons lancer un appel les prochaines fois.
Voilà.
Nous allons discuter âprement de cela et même, pourquoi pas, appeler des gens en Afrique pour dire, ben, allez, on est là, il y a de l'expérience, pourquoi pas. Donc, CFM Radio permet cela. Je te remercie beaucoup et
on se dit la prochaine fois.
Merci, Monsieur Nganda. Merci, Thémis, et à bientôt aux auditeurs.
À bientôt.
Allez.
C'est FM.
C'est bon pour ce que vous avez.
C'est bon pour ce que vous avez. C'est FM.
L'esprit rock.